Bonjour Caroline Brouet et bonjour à tous. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Ils sont plusieurs, jeunes filles et garçons, à raconter dans un film de Valérie Mregen, Pork and Milk, comment ils sont sortis du monde des juifs ultra-orthodoxes, ultra-observants en Israël. Comment ils sont devenus laïcs. L'un décide brusquement de couper ses papillotes. C'est son premier acte de rébellion. Puis il s'échappe littéralement de son quartier. Un autre ose entrer dans un cinéma. Un acte de courage incroyable, une perdition assurée. Tous racontent que la première fois qu'ils désobéissent au commandement de la religion, c'est l'effroi. La première fois qu'ils allument l'électricité, un jour de Shabbat. La première fois qu'ils conduisent, ce jour-là, qu'ils boivent de l'alcool. Leurs peurs sont irrationnelles, mais impossibles à réprimer. « J'étais sûre que Dieu lui-même allait descendre et m'arracher le cœur », dit l'un. « Le premier samedi où j'ai allumé une lumière, j'attendais qu'un éclair me foudroie sur place », explique l'autre. « Je pensais que mes doigts allaient s'enflammer et que Dieu viendrait me régler mon compte personnellement », dit encore un autre. Et pourtant, rien de tout cela ne se passe. Certains doutent encore, ne savent pas s'ils ont bien fait ou pas, si Dieu existe ou pas, ni où est au fond exactement leur place. Mais aucun ne regrette vraiment. Quand il y a des fêtes religieuses, des rites, des repas, il est vrai qu'ils se sentent seuls. Ils éprouvent le besoin de se retrouver entre apostats. Ils organisent de petites fêtes laïques, mais nostalgiques, qui leur rappellent leur jeunesse et les croyances qu'ils ont perdues, avec les plats rituels surtout. Ils ont coupé avec la tradition, quitté un monde pour un autre, renoncé à une pensée politique, religieuse, sociale, un mode de vie, pour en adopter une autre. Deux autres histoires de traditions rompues, aujourd'hui dans les pieds sur terre, de filiation reniée, de liens coupés avec les siens, de refus de perpétuer ce que l'on juge mauvais ou inapproprié. De récits d'Élise Andrieux jusqu'à 14h dans les pieds sur terre, sur France Culture, évidemment.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Olivier. Mon histoire, c'est celle d'un adolescent, on va dire, qui s'est converti à l'islam à 18 ans. J'en ai 32 aujourd'hui. Donc en fait, j'ai vécu dans une petite commune dans l'Auvergne, où j'ai eu une enfance très heureuse, très tranquille. J'étais catholique et donc j'ai fait mon catéchisme un peu par tradition, plus que par conviction en fait.
Ils étaient croyants, vos parents ?
Ils sont croyants parce que mon père est d'origine, enfin, sicilien, il est né en Sicile, il est venu... Enfin, il avait 9 ans quand il est venu en France et ses parents étaient très, très catholiques. Donc en Sicile, on est souvent très, très catholiques. Mais j'ai jamais senti, enfin, on ne me l'a jamais transmis en me disant c'est quelque chose qui va donner sens à ta vie, c'est quelque chose qui est important dans ta vie. Donc c'est vraiment à 16 ans ouais, que je me suis posé des questions, que j'ai remis en question ce qu'on m'avait donné. Il y a des choses qui m'ont toujours paru très bizarres, comme le fait que c'est très trivial, hein, mais quand dans Je vous salue Marie, on dit Sainte Marie, Mère de Dieu, c'est quelque chose qui n'est jamais vraiment passé pour moi. Enfin, j'avais beaucoup de mal à penser qu'un homme pouvait être un Dieu, donc Jésus pouvait être Dieu. L'Eucharistie, toutes ces traditions, le fait de se confesser tout le temps aussi, le péché originel. Je me rappelle de lever la tête à l'église et de voir ces taches noires. C'était l'église où on est allé à la messe et je m'y sentais pas bien, quoi. J'avais l'impression que c'était plus une religion du péché qu'une religion de vie, vraiment. Et c'est à cette époque où j'ai commencé à me renseigner sur d'autres religions. Je crois que c'est parti d'une encyclopédie où je lisais des articles sur le bouddhisme, sur l'hindouisme. Enfin, je crois que j'ai fait à peu près toutes les religions de manière très synthétique. Hein, mais, et donc, ce qui m'a le plus parlé, c'est l'islam. Donc, très vite, parce que Jésus n'était pas un dieu dans l'islam. Et que je crois que quand même ce qui me reste de la religion catholique, parce que l'islam, c'est quand même le parachèvement des trois religions monothéistes. Donc, c'est c'est pas une faire table rase, c'est vraiment un parachèvement, une continuité. C'est une religion qui est belle parce que elle aspire à contrôler son ego. On parle souvent du nafs dans l'islam, c'est ce qu'on pourrait dire l'ego. Et comme dans beaucoup de religions, comme dans le bouddhisme également, le but pour un musulman, c'est de s'élever, d'être un homme meilleur à chaque instant. Et à l'âge de 18 ans, c'est là que j'ai pris ma décision, et notamment grâce à des signes du type des rêves que j'ai faits. Je me souviens, bon, dans les rêves, il n'y a pas forcément de logique, donc c'était une grotte très lumineuse. Je me rappelle qu'il y avait une communauté de croyants et de croyantes qui étaient présents, et je me rappelle d'une sensation de sérénité, de calme absolu. Je me souviens faire mes ablutions, et alors que je ne savais même pas comment on les faisait, je me rappelle de faire des gestes très précis qui se sont révélés être plus ou moins exacts. Je flottais quoi dans cette grotte, je regardais les visages des gens, il y avait une petite brise, tout était parfait quoi. C'était, je sais pas comment l'expliquer hein, c'est bon, j'étais cartésien, maintenant je le suis un peu plus, mais à l'époque je devais pas l'être du tout parce que ce rêve a suffi à me convaincre définitivement que cette religion était faite pour moi. Le choix était tellement clair que je me posais plus de questions à cette période-là. C'était, il fallait que j'avance, c'est tout. Je me suis rendu donc chez des amis musulmans qui m'ont accueilli. Donc pour se convertir à l'islam, c'est très simple. Il suffit de prononcer la shahada, qui est l'attestation de foi. Donc il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son messager. Et donc devant deux témoins, et ensuite on est musulman. Donc c'est très, très simple, très rapide. Je dois préciser que j'étais tout à fait sûr de faire le bon choix, mais j'ai toujours eu du mal à l'assumer avec les autres quand même, parce que j'avais peur de la peine que ça pouvait leur coûter, et quand je l'ai dit à mes parents, ça a été quelque chose de très très difficile pour moi, parce que aussi on vient d'une famille où on se parle très très peu de choses graves. On se parle souvent, hein, mais dès qu'il y a un conflit ou quoi que ce soit, on évite. Je me souviens d'être dans la cuisine, de leur dire ben, il faut que je vous parle, et rien que le fait de dire il faut que je vous parle de quelque chose, j'ai compris que peut-être ils s'attendaient à ce que je leur dise, mais que ça a été, je sais pas si je les ai surpris, déçus, si je leur ai fait peur, je sais pas ce qui s'est passé dans leurs yeux, parce que déjà j'ai évité leur regard. Je pense, après coup, en y repensant, je pense que ça leur a... Enfin, que ma mère a eu un petit peu peur, parce que tout d'un coup, il se passait un changement dans la famille quand même. Il allait falloir en parler aux oncles, aux tantes, aux grands-parents. Alors pourquoi en parler ? Moi, je voulais en parler à personne. C'est comme un homosexuel. Il ne va pas forcément à un repas de famille se lever et dire « bon, ben, je suis homosexuel ». J'avais pas forcément envie de faire ça, moi, de faire mon coming out en repas de famille et de me lever et de me dire « bon, j'ai quelque chose à vous annoncer, je suis musulman ». Donc je l'ai jamais vraiment fait. Mais le problème, c'est que quand on est musulman, on mange pas de porc et on boit pas d'alcool. Et que quand on vient d'Auvergne, ça peut poser quelques petits soucis. Là, pour le coup, la culture de l'alcool, de la charcuterie, tout ça, c'est quelque chose de très prégnant en Auvergne et en France. Donc quand on refuse à boire, ça paraît bête, mais les gens cherchent forcément à savoir pourquoi on ne boit plus d'alcool, c'est normal. Mon frère est au courant, on n'en a jamais vraiment parlé, même on n'en a jamais parlé. Bon, on s'entend très bien, mais je sais pas, c'est comme si ça, des fois ça n'existait pas. Je crois que c'est mes parents, enfin ma mère qui le lui a dit. Après, il y a une partie de ma famille à qui je le dirai clairement jamais, en tout cas qui est un peu plus éloignée, donc ça va, ça me pose moins de problèmes. Mais je pense que eux le prendraient très mal. Ils n'acceptent pas trop la présence des immigrés maghrébins en France, donc bon, l'islam, j'en parle pas. Donc eux, je pense que ça serait compliqué. Et pourtant, maintenant que j'en parle là, tout de suite, je me dis que ce serait important que je leur en parle, parce que peut-être qu'il y a des choses qui pourraient changer quand même. Justement, s'ils se rendent compte que quelqu'un dans leur famille s'est converti à l'islam et que tout se passe très bien et qu'il n'a pas changé et qu'il est le même et qu'il n'est pas devenu un fanatique, terroriste ou je ne sais quoi, peut-être que ça pourrait contribuer à faire bouger les lignes. Et ce qui me choque un peu, c'est que le discours a un petit peu changé. C'est qu'avant, on parlait justement des Arabes quand on était raciste ou un petit peu raciste. Mais maintenant, on parle des musulmans beaucoup plus. J'ai un peu l'impression que quoi que fasse le musulman à l'heure actuelle, ça se retourne un peu contre lui, quoi. J'ai l'impression que quand le musulman prie dans la rue, certains disent que c'est une démonstration de force, qu'ils ont des revendications, etc. Quand il ne prie pas dans la rue, mais qu'il va se trouver une mosquée dans une cave parce qu'il ne peut pas prier ailleurs, on va dire qu'il se cache pour préparer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ça devient compliqué, quoi. Donc c'est pour ça que je me dis que j'ai l'impression d'appartenir à deux mondes et j'aimerais bien qu'ils communiquent, quoi. C'est très difficile de parler de la foi, surtout à quelqu'un qui ne croit pas. Maintenant, je traîne avec des gens qui sont déjà très cultivés, tout ça. Mais j'ai fait l'expérience aussi dans l'association où je travaille, qui est plutôt très à gauche. Et bizarrement, quand ils ont appris que j'étais musulman, ça ne s'est pas forcément bien passé. On devait se commander des pizzas. Et donc j'ai dit, ben, si possible, j'aimerais une pizza sans morceau de jambon pour moi. Et donc là, on m'a dit en rigolant, ouais, d'accord, comme les musulmans, quoi. Mais tout le monde s'est mis à rire, sauf qu'une fois que les rires se sont arrêtés, je leur ai dit, non, mais je suis vraiment musulman. Et là, j'ai senti les regards braqués sur moi et c'était très... J'ai l'impression que le temps s'arrête véritablement, que leur représentation... Enfin, il y a quelque chose qui s'effondre, qui se casse dans leur représentation. C'est fou, hein, mais comme si un blanc français, je sais pas, qui en plus est politisé plutôt à gauche, travaille dans le milieu des livres, c'est incompatible, quoi, pour eux. Donc, du coup, quand je leur dis que je suis musulman, ça fait un choc. Ça va être l'heure de la prière de Marleb. Donc, quand c'est comme ça, je vais faire mes ablutions.
Vous priez 5 fois par jour ?
J'essaye de m'y tenir. C'est pas toujours facile, surtout pour la prière du matin, pour un lève-tard comme moi.
Vous avez une mosquée chez vous ?
C'est pas vraiment une mosquée, c'est simplement la salle, la petite chambre où on fait la prière. Et donc, les musulmans aiment bien avoir leur petit... C'est comme leur petite chapelle, quoi, on va dire. Voilà. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Quand c'est le moment de la prière, il y a une espèce de pas dire d'appel, mais il faut que je la fasse, quoi. C'est un appel quelque part, quoi. Quand je l'ai faite, je me sens mieux. On entre en communication avec Dieu et on s'élève, tout simplement. La prière, pour moi, c'est une élévation. Et c'est vraiment ce que je trouve beau, c'est que c'est une religion qui lie à la fois la terre, vraiment le corps, tout ce qui est organique, je ne sais pas comment l'exprimer, et à la fois le ciel, donc l'élévation, c'est une religion qui parle constamment de ça. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. À 30 ans, je suis devenu le père d'un petit enfant, un garçon. Et là, bon, ça a été l'occasion de me poser pas mal de questions justement sur la transmission, sur qu'est-ce que j'allais lui transmettre. Parce que, bien sûr que j'aimerais qu'il soit musulman, mais mes parents ont accepté le fait que je passe de catholique à musulman. Donc je me verrais mal lui imposer des choses. Et même au niveau de son prénom, ça a été difficile parce que... On se demandait donc avec mon ami si on allait lui donner un prénom vraiment musulman parce que on s'est dit est-ce que ça va être un fardeau pour lui, est-ce que ça va être au contraire une bénédiction. Au final, on lui a donné un prénom musulman en pensant que c'était une bénédiction, mais ça n'a pas été simple parce qu'on avait peur pour lui que ça lui porte préjudice, un petit blondinet. Donc forcément, il aura des questions à l'école. Moi, j'ai eu le choix. J'ai un prénom français, j'ai aussi un prénom musulman, mais j'ai eu le choix d'employer l'un ou l'autre, alors que lui, il ne l'aura pas. Et puis on arrive au 7 janvier 2015, donc... Moi, j'étais donc au travail quand ça s'est passé. Ça m'a fait un choc parce que je me suis dit, c'est une catastrophe. Quand j'ai appris que c'était journaliste de Charlie Hebdo, ouais, on vise un journal, on vise le symbole que représentait ce journal. Donc c'était quelque chose d'horrible. Mais je me rappelle que 2 jours après, je me suis dit, ça va poser problème pour... Ça va être très problématique pour parler de l'islam dans les mois et les années qui viennent, en France en tout cas. Déjà que je trouvais que ça devenait de plus en plus problématique, que le débat était trop passionné pour que des choses sereines en ressortent. Là, avec ces attentats-là, il y a des images qui marquent, quoi. Tout le monde maintenant a en tête ce mec cagoulé avec une kalachnikov qui abat un policier de sang-froid, qui dit qu'il a vengé le prophète, ce qui est une aberration totale, mais bon, ça, je j'ai même pas envie d'en parler, parce que ça veut rien dire du tout. Voilà. Quand j'ai vu ces attentats, j'ai pensé ouais, directement à mon fils, plus qu'à moi, forcément, où je me suis dit, mince, j'espère qu'il va pas en baver, quoi. Et on a beau essayer de se raisonner, ça peut être dur pour lui, quoi, je pense à... Donc du coup, mon fils, moi, j'aimerais bien qu'il soit, qu'il ait la même chance que moi, c'est que qu'il garde le meilleur des deux cultures et qu'on l'embête pas trop et qu'au contraire, il soit, vecteur de réconciliation, quoi. En tout cas, je pense que chaque être humain a le devoir d'être actif dans sa recherche de plénitude et que des fois, on peut se laisser aller, on a trop tendance à vivre sa vie et à recevoir les traditions sans les remettre en question. Et ça me pose un tout petit peu problème parce que c'est quelque chose qui peut mourir peu à peu. Si on ne les réinterroge pas, si on ne les fait pas dialoguer avec d'autres cultures, avec d'autres traditions, les traditions, elles meurent. Elles meurent petit à petit.
Je m'appelle Magda Diomandé, Et donc, je suis artiste, chorégraphe, danseuse et militante pour le droit de la femme. Voilà. Mon histoire à moi, on va dire, elle est quand même un peu compliquée. Je viens de la Côte d'Ivoire. Donc, je suis née à Kavakouma, dans les 18 montagnes. Donc, précisément dans le village de ma mère, où je travaille justement aujourd'hui en tant que militante aussi pour l'arrêt de l'excision. Parce que pour moi, ma vie en tant que fille excisée, j'ai été excisée dans ce village-là. Tout est parti de là. C'est une tradition que je maîtrise et je sais aussi pourquoi ils le pratiquent. C'est pourquoi j'ai commencé mon travail aussi dans ce village, pour que ça se propage dans d'autres régions de la même communauté. Tout le monde attend son excision comme Noël. L'excision, tant que tu ne l'as pas fait, tu ne la connais pas. Chacun a son excision. Chacun sait ce qu'il a vécu. Personne ne raconte à l'autre. Donc si tout le monde savait qu'on partait pour couper ton clitoris, je ne pense pas que ça allait faire rêver quelqu'un. C'est pourquoi c'est atroce. Tu es surpris de la douleur, c'est quelque chose qui te tombe dessus, que tu ne comprends pas parce que tu ne t'attendais pas forcément à ça. Donc c'est une douleur que tu subis. Maintenant, pour moi, c'était normal. Parce que pour moi, tout ce que j'ai vu autour de moi, ils ont toujours été excisés. Donc, je ne me suis pas rébellée. J'ai fait ma fête d'excision avec mes tantes. Je sais qu'à la veille, avant que les fêtes commencent, tous ceux qui devaient être excisés, on s'était retrouvés chez la matrone et on nous a lavés avec des plantes. On nous a donné des médicaments qu'on devait manger. Je sais que c'est des choses qui te préparaient à être courageuse, à moins souffrir que si tu sais, comme si on te donnait une anesthésie, mais à la base de plantes. Donc, ça veut dire qu'ils savent que tu vas avoir mal et qu'ils prennent soin que tu aies moins mal parce que pour eux, c'est un passage à l'âge adulte et que tu dois le faire, eux l'ont fait. Donc, ils sont bien conscients de ça. Et c'est quelque chose que pour eux, ça doit se répéter. Matrone, c'est quelqu'un aussi qui a des connaissances, qui peut arrêter le sang, par exemple, avec ses plantes, qui a des dons, des guérisons. Moi, je vous dis, on m'a coupé, j'ai été excisée. Je suis guérie à une semaine. À une semaine, il n'y avait plus de plaies. Et on était dans un village. Il n'y avait pas de désinfectant, il n'y avait rien. Mais rien qu'avec des plantes. Elles ont des connaissances. Et c'est ça que je veux que les gens comprennent aussi. Maintenant, il ne faut pas qu'elles utilisent leurs connaissances sur cette pratique-là.
Vous avez décidé de ne pas le faire. Vous deviez être matrone.
Ouais, moi j'ai décidé de ne pas le faire. Ça c'est sûr. J'ai décidé de ne pas le faire, j'ai décidé de le faire différemment. Je suis une matrone des temps modernes dans le sens où je veux garder la transmission de la connaissance et du savoir sans l'acte de couper le clitoris de quelqu'un, sans brutaliser quelqu'un, sans rien faire. Et c'est pourquoi je suis devenue militante. Je suis quelqu'un qui va dans les villages et qui sensibilise les femmes et qui dit aux femmes, l'excision là, vous voyez, il va falloir qu'on arrête. Je sais que c'est notre tradition, mais aujourd'hui, vous pouvez avoir le sida par cette pratique. Je vais sur le terrain régulièrement pour faire comprendre à nos parents qu'ils doivent laisser le couteau. Et ils vont le laisser, ça c'est sûr. Aujourd'hui, la seule chance que j'ai et qui fait que j'arrive à parler de l'excision avec eux, c'est parce que non seulement j'ai été excisée, et non seulement je porte le nom de ma grand-mère, et que je devais être une exciseuse. Donc encore, ils m'écoutent parce qu'ils se disent, ah, si elle nous dit ça, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose de vrai dedans.
C'est difficile d'arrêter une tradition?
Ouais, c'est difficile d'arrêter dans une tradition quand les gens ne sortent pas. Donc il faut aller tout doucement. Je vais vous dire la vérité, ce n'est pas quelque chose de facile pour moi. Même quand j'ai commencé la lutte contre l'excision, ici, mes premières conférences, je n'arrivais pas à parler parce que c'est comme si tu trahissais quelque chose. Tes parents, tu as l'impression de trahir ta famille, tu as l'impression de trahir ta communauté. Tu peux laisser ta vie parce que le monde de l'excision, c'est très mystique. C'est des femmes qui ont tous des pouvoirs de sorcellerie, des pouvoirs de la connaissance, des pouvoirs de lire dans la pensée des gens. Donc, c'est ça qui fait peur aussi à toutes les femmes africaines qui doivent lutter contre ça. C'est pourquoi ils ne peuvent pas forcément aller sur le terrain. Moi, ça m'a pris 3 ans pour regrouper des femmes. Mais aujourd'hui, on parle ouvertement de l'excision. Alors que chose qui était impossible il y a 5 ans. Et qu'aujourd'hui, je fais des réunions où je rassemble 15 villages. Le monde actuel n'a plus besoin de ça. Moi, j'ai une fille, ma fille là, si aujourd'hui, et moi, j'ai supporté l'excision, mais si ma fille, on lui fait ça, je pense qu'elle va mourir. Tu comprends? Elle ne le fera pas. Ce n'est pas son monde, ce n'est pas son temps. Pour moi, ce temps-là, il est fini. Il est fini pour les gens comme nous, mais il n'est pas encore fini pour des gens qui sont dans les villages. Et moi, la lutte contre l'excision, c'est une histoire de vie.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et La Tradition Rompue. Un reportage d'Élise Andrieux réalisé par Perret Legras. Merci à Olivier et à Martha, bien sûr. Merci également à Pauline Miel qui s'occupe de cette belle collection Au Seuil, Raconter la vie. Une collection de livres mise en ligne gratuitement sur un site internet qui est aussi participatif. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. L'attachée de production, c'est bien sûr Sandrine Chaperon avec Alison MacTaggart. Vos commentaires, c'est sur notre site franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre. Et vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook ou bien sur notre compte Twitter. En attendant, je vous souhaite une bonne après-midi. Restez à l'écoute de France Culture.